Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans ce 78e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, c'est la face A. Ce sont donc les actualités avec Pierre.
Bonsoir.
Et avec votre serviteur.
Alexandre.
Pour vous servir. C'est un petit peu pléonasmique, mais bon. Non, très bien, en placer une. On va donc commencer tout de suite par les brèves, les actualités. Google a bloqué le compte Google Ads de Numérama. Numérama, oui. Numérama donc, qui est un site qu'on utilise beaucoup pour faire nos news. Hein. C'est une de nos principales sources d'information.
Tout ce qui est, en tout cas, droit d'auteur.
Beaucoup. C'est-à-dire que Guillaume Champeau, quel titre il a réalisé, d'acteur en chef responsable, Grand Manitou, Grand Schtroumpf. Donc c'est un diplômé en droit, assez calé, plutôt bien calé sur les questions liées au droit d'auteur. C'est pour ça que beaucoup d'articles qui y sont liés ont en général un grand intérêt sur Numérama. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Numérama a voulu, par signe de solidarité, copier une image qui a été censurée sur Facebook. Pourquoi ? Parce que c'est un tableau où on voit du nu. Genre pas du pornographique, du nu tel qu'on verrait.
C'est un tableau de nu qu'on retrouve dans un musée, je sais plus lequel.
Hein, imaginez, c'est aussi choquant que la Vénus de Milo, par exemple.
Voilà.
Hein, globalement.
Oui,
donc a fait Numérama, un geste de soutien, ils l'ont recopié avec un article explicatif. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pam ! Nos amis, enfin entre guillemets, de Google ont décidé de suspendre leur compte Google Ads, donc celui qui permet... d'afficher des publicités et donc de mesurer l'audience du site également et ainsi rémunérer le site à hauteur de l'audience.
C'est bizarre
que Numérama est un site gratuit donc dont le modèle économique repose en grande partie sur la publicité, ne serait-ce que même entièrement sur la publicité, étant donné qu'il n'y a pas à ma connaissance de formule Numérama Premium, c'est uniquement sur la publicité. Donc ça revient à couper les vivres au site internet. Bon, on suppose que ce soit un robot qui ait fait ça. Mais ça pose aussi certaines questions sur les normes de pudeur de l'Amérique, même de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'elle s'applique au monde aussi. Parce que pour eux, c'est choquant, pour un œil européen en général, bon, voilà, c'est du nu artistique, c'est purement artistique. Hein, y a rien de choquant, on peut même montrer ça à un gamin de 8 ans. Voilà. En France, en Europe, plus généralement, ça ne choquerait pas.
Non, en effet. Ce qui est aussi de très drôle, c'est que Numérama n'a eu aucune information sur cette censure. Ils ont juste reçu un avertissement comme quoi leur compte Google Ads était bloqué, tout simplement, pendant quelques jours. Donc il n'y avait plus de publicité sur le site web. Et là, du jour au lendemain, ça s'est rétabli. Sans que Google explique quoi que ce soit.
Oui, c'est ça. Mais c'est souvent, dans ce genre de cas, une certaine opacité dans les critères... Tout ça repose sur des entreprises, n'ont pas à avoir, les mêmes critères de transparence que pourrait avoir une administration ou un organisme gouvernemental.
Voilà.
Alors, je dis pas qu'il faut mettre Internet aux mains des organismes gouvernementaux, mais le fait que ce soit aux mains de grandes entreprises, comme Google ou Facebook qui ont des positions dominantes, bon, Facebook ou moins, enfin sur leur segment, et Google a une position vraiment dominante sur l'ensemble d'Internet parce que
Facebook souhaite avoir une position dominante.
Là, mais bon, heureusement Facebook l'a pas encore. Sur Internet, on peut se passer de Facebook. On s'en passe très bien.
Oui.
Google, on peut s'en passer le plus possible. Il y a un moment où il va être incontournable. Mm. Ou à moins de le site de Richard Stallman en HTML pur, voilà.
Toi, en tant que personne, tu te passes d'utiliser Google. Les sites que tu visites sont très nombreux à utiliser les services de Google pour la publicité notamment, et donc à être payé via Google. Et finalement, tu te retrouves à utiliser les services de Google malgré toi. Il y a aussi cet aspect-là. C'est impossible de se passer de Google de nos jours, malheureusement.
Ouais. Autre ben, une information qui vient de Numérama. Est-ce que vous connaissez le feuilleton entre donc Nicolas Gréber, donc blogueur putéolien dans la ville de Puteaux dans les Hauts-de-Seine, dans la région parisienne, et donc madame Cécile Renou, donc qui est maire de Puteaux, donc qui a hérité de la commune de son père. Donc il y a tout un feuilleton sur le fait que Christophe Gréber, qui entre deux est entré au conseil municipal et il y a toujours entre eux une certaine animosité. Ça allait jusqu'à ce que le site internet officiel de la mairie fasse des allusions sur une pédophilie de Christophe Gréber. C'est allé sur le site officiel, c'est allé jusque là. Il y a aussi, alors l'épisode assez connu, il y a eu un article du Canard Enchaîné à propos de la gestion de madame, c'est-à-dire, je ne permets pas de parler comme ça de François, s'il te plaît, notre technicien de la phase B. Private joke, désolé. Donc voilà, il y avait un article dans le Canard Enchaîné qui dénonçait la gestion donc de la maire actuelle, de la maire UMP. Et donc qu'a fait la mairie ? Bon, c'est pas les seuls à le faire, mais là ça a fait pas mal de bruit, c'est qu'ils ont acheté tous les exemplaires du Canard Enchaîné
dans la ville.
En sachant qu'on est en région parisienne, vous savez, c'est très difficile d'être dans une commune avoisinante pour l'acheter. Parce que souvent, vous savez, c'est vrai que c'est connu qu'en région parisienne, les gens en général travaillent dans la commune où ils habitent. En général, hein, c'est hein. Non,
ou pas.
Non, non, ou pas.
Et donc là,
donc là, c'est ainsi.
Quand même.
Donc là, voilà. Donc là, c'est pour placer des éléments de contexte. Donc il s'avère que la mairie de Puteaux met à disposition dans certains parcs une connexion internet, connexion Wi-Fi, un Wi-Fi public. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en essayant de se connecter au blog donc monputeaux.com, le fameux blog maintenant assez connu, bizarrement il y avait le filtre, alors c'est le protection parentale, le whitelist, blacklist, c'est ce truc qui vous emmerde dans l'entreprise. Vous n'avez pas le droit d'accéder pour des raisons de sécurité à ce site.
Alors, étonnant, dire, non ?
L'explication de la mairie, bon, on interdit les blogs. Sauf qu'on va sur un blog de mettre le. Alors, je crois que c'est celui de mettre là s'ils ont testé, bon, un blog bla, ou un blog 2000 temps de l'UMP, celui-là n'est pas filtré.
Étonnant.
Étonnant.
En plus, c'est vrai que c'est dangereux un blog. Hein, je...
Alors, au-delà d'être un énième chapitre de la saga entre l'opposant à la mairie et la maire, bon, ceux qui connaissent un petit peu l'Anderno politique sont un petit peu au courant, on voit que peut être le danger qu'une administration fournisse un réseau, en tout cas que le réseau internet soit sous la coupe d'une administration. C'est que du coup, on peut sans explication. Couper le verrou. Mmh. Couper le verrou, ça veut rien dire. Voilà, ça peut, on peut censurer comme ça, sans raison valable, sans contrôle, un site internet. Voilà, bon, ils l'ont fait de manière, voilà, c'est quand même des gens pas très fins, et ils l'ont fait avec des gros sabots, et ça se voit à 10 000. Bon, ça ne l'empêche pas d'être élu. Après, le suffrage universel fait ce qu'il veut. On n'a pas non plus. On a déjà élu.
Pas notre mot à dire.
Voilà, c'est ça. Mais ça pose quand même des questions. Voilà, sur les Wi-Fi publics, qui est-ce qui les contrôle ? Et c'est valable aussi pour une entreprise.
Il me semble que les Wi-Fi publics doivent. Enfin, à un moment, l'ARCEP parlait de mettre des contrôles, mais c'est uniquement quand les Wi-Fi sont payants, je crois. Quand l'accès est payant, là, il y a un contrôle normalement qui est fait parce que c'est considéré comme la fourniture d'accès à Internet. Quand c'est public, on va savoir.
Voilà, donc ça pose aussi la question du filtrage voulu par certains acteurs économiques ou certains acteurs institutionnels. Voilà, les dangers. Bon, même si là c'est très gros, mais fait de manière plus fine, ça peut être beaucoup plus insidieux.
Tout à fait.
Quelques brefs, Pierre ?
Bah, on va continuer sur une phase de censure. Une toute petite censure qui a été repérée par Lawrence Lessig, très connu pour être l'auteur des licences Creative Commons. Ce brave monsieur possède, tout le monde a des défauts, il possède un iPhone.
Ça arrive à des gens très bien, je tiens à le préciser.
Des gens très bien. Il possède un iPhone et il était mécontent de certains éléments concernant la dernière mise à jour du système. Soit, il s'est dit, je vais aller en parler sur le forum d'Apple. Il va sur le forum d'Apple, puis là il tombe sur un message de quelqu'un qui pose un commentaire qui correspondait exactement à ce que Lawrence Lessig pensait. Et... Bah, il se dit, je vais répondre en mettant un commentaire, en disant que je suis d'accord, j'ai les mêmes symptômes. Et puis là, d'un seul coup, il voit l'article disparaître. Pouf ! Censuré. Donc,
ça.
il poste un nouvel article avec à peu près le même contenu, pouf, censuré. Magie. Voilà, c'est juste les pratiques commerciales de certaines entreprises sont toujours très drôles. Une entreprise qui censure ses clients, ça me gêne toujours.
Ouais. Puis ça se sait, c'est idiot parce que ça se sait. Bon, ils vont dire c'est un cas d'application, un petit cas de effet stressant, mais voilà, on a un petit peu, c'est un mini effet stressant quoi.
Bon, on part tout de suite au combat. On est chaud.
Allez,
on est chaud.
Allons lourd.
Allez, on va parler de brevets. On a trois nouvelles sur les brevets. Une bonne, une pas bonne, une terrible.
Alors tout de suite petit avertissement. Ayez des comprimés de paracétamol ou d'aspirine d'un côté de vous.
La bonne nouvelle sur les brevets. L'administration Obama a décidé de mettre en place une loi pour lutter contre les patent trolls aux États-Unis. Enfin, il était temps. Bon, manque de bol, quand on regarde le texte de la loi, c'est pas si cool que ça encore. Hein.
Ça va pas au bout de ses ambitions, je dirais.
Non, et puis surtout, ça a des effets de bord désastreux. En fait, là, l'un des objectifs, c'est notamment un de ne plus pouvoir payer, de lancer une procédure sans payer des frais. Deux, de devoir apporter toutes les preuves dès le début de la procédure et pas au fur et à mesure du dossier, histoire de faire chier la défense. Donc ce point-là n'est pas trop discutable. Par contre, le premier, rapporter des frais à la création de la procédure, c'est gênant. Et également, transparence. La maison mère des entreprises qui portent plainte serait tout le temps impliquée dans les procès. On ne pourrait pas, par une société écran, s'amuser à attaquer quelqu'un. Ça devrait être immédiatement la société mère. Par exemple, Apple, Microsoft ne pourraient pas attaquer via la société Rockstar.
Ils ont choisi
ils pourraient attaquer directement en leur propre nom. Oui, tout à fait choisi au hasard. Aucun lien avec la très mauvaise nouvelle. Donc, effectivement, ça calmerait un petit peu, sauf que quand on regarde le résultat final, notamment la partie créer des frais à l'ouverture d'un procès, ça va avoir deux conséquences très intéressantes. Un, les petites entreprises ne pourront plus attaquer, c'est-à-dire les patent trolls, mais aussi les vraies entreprises innovantes. Deux, les grosses entreprises pourront toujours attaquer Apple, Microsoft, Google, Motorola. Suffisamment de BlackBerry, enfin RIM, je sais plus leur nom. Toutes ces entreprises-là ne seraient pas limitées pour attaquer. Il n'y a aucun problème. Donc oui, ça tue les patent trolls. Oui, ça va éliminer des sociétés parasites. Enfin, ça éliminerait, c'est pas encore passé. Ça éliminerait notamment des sociétés comme Lot6. Ça protégerait certaines.
Ça ferait un peu de ménage, mais
ça ferait un peu de ménage, mais
loin de l'effet qu'on voudrait.
Voilà, ça passerait un coup de balai, ça passerait pas le karcher, quoi. Les gros cadavres, les grosses merdes seraient toujours là. Il y a pas d'autre mot. Ce qui resterait, ce serait vraiment le pire finalement. Donc c'est pas de la super nouvelle. La nouvelle rigolote au milieu. Il y a Apple et Microsoft, ils ont osé un truc qui me paraît vraiment fou. Ils ont envoyé une lettre à l'Union Européenne. Alors, je ne sais plus à qui c'était adressé, à quel organisme. L'Union Européenne, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a un projet d'unification du droit des brevets.
Le fameux brevet unique européen.
Brevet unitaire, pardon. Et donc, Apple et Microsoft ont envoyé une lettre pour dire « Non mais attention, si vous laissez ça passer, ça va créer des patent trolls, c'est très dangereux. » Bravo Apple, Microsoft, bravo, vous reconnaissez que c'est la merde. Maintenant, la partie rigolote, la vraie grosse nouvelle de ces deux dernières semaines. Parce que vous savez, des fois on se dit, merde, on va vraiment. Comment on fera pour dans deux semaines c'est calme en ce moment l'actualité. Puis là, bah, on lance une guerre nucléaire avec une bombe qui a coûté 4,5 milliards de dollars quand même. Je sais plus ce que c'était pour le coup de la première bombe nucléaire qui avait été lâchée sur Hiroshima, mais
j'en ai aucune idée.
4,5 milliards de dollars, là, je pense qu'on est déjà sur de la bonne bombe de qualité. En l'occurrence, la bombe, c'est, on en avait parlé en 2011, les brevets de la société canadienne Nortel. On en avait parlé sur cette antenne en 2011, et oui, on était déjà là. C'était une société qui avait fait faillite et qui était mise en vente, et plutôt son portefeuille de brevets était mis en vente. Donc notamment Google avait participé aux enchères pour essayer d'acquérir le portefeuille de brevets. Manque de bol, c'est pas eux qui ont gagné. C'est une société, la société Rockstar, je sais plus quoi, qui est une société écran, qui a racheté les brevets.
Ça n'a rien à voir avec Rockstar Games.
Non, strictement rien à voir. Attention, faut être précis. La société Rockstar Games n'a rien à voir avec ça. Là, c'est vraiment une société qui a été créée par, enfin, qui est tenue notamment par Apple, Microsoft, Sony, BlackBerry, Ericsson, EMC, donc des gros sabots. Ils ont investi quelques centaines de millions d'euros chacun, de dollars chacun, pour accumuler la coquette somme de 4,5 milliards de dollars. Et donc, ça y est, ils ont décidé de sortir le portefeuille de brevets et de lâcher la bombe sur Google et cette fabricante de téléphones Android, dont Samsung. Ils ne peuvent vraiment pas être contents. Ils se prennent tout dans la gueule. Donc, ils ont décidé de lancer leur grande guerre. Alors, là, en l'occurrence, parmi les brevets qui sont au sein de cette attaque, il y a un brevet qui décrit un système de publicité un système automatisé de publicité qui fournit des publicités à un utilisateur lorsqu'il recherche des informations au sein d'un réseau de données.
En gros, la pub contextuelle, à peu près. Hein.
Voilà, fait... Grosso modo, hein, si je comprends bien, c'est à peu près le business de Google depuis leur création. Je pense que ça va gueuler. Je sais pas du tout où est-ce que ça va aller, on sait toujours pas. Donc il y a 6 brevets hein, dans le lot, mais c'est terrible. Là on doit être à peu près maintenant au niveau maximum de la guerre des brevets. Ça fait quelques années que ça dure, mais là, je pense que ça y est, c'est la grosse attaque, l'attaque avec un grand A. Alors, je suis pas pour Google, mais personne ne peut s'estimer gagnant dans une telle configuration. Peu importe qui gagne. Si Google gagne, super.
Ils y auront laissé des plumes.
Et puis même... ça reste Google, quoi. On n'est pas forcément d'accord avec toutes les pratiques, toutes les méthodes de Google. Si Rockstar gagne, c'est une
catastrophe.
Et encore pire, si le système de brevet américain continue comme ça, malgré ce genre de procès stupide, tout le monde va perdre. Donc là, c'est.
Il y a une prise de conscience. Je veux pas être trop faire d'excès d'optimisme, mais il y a eu une prise de conscience récente. Et si le procès continue comme ça, il y a un moment où les autorités vont finir par se rendre compte que ça devient franchement n'importe quoi.
Moi, je vois qu'une seule chose relativement positive dans cette nouvelle, c'est le fait que Google soit une société américaine. Parce qu'on l'a vu dans le cas de Samsung, quand c'était Samsung qui se faisait attaquer contre Apple.
C'est comme si c'était jugé par un jury populaire et qui a fait preuve d'un certain patriotisme au détriment du droit.
Ah mais non, Alexandre, tu oublies un épisode. Pardon. Tu oublies l'épisode où l'administration Obama s'en est mêlée pour dire non, attaquez pas Apple. T'as oublié cet épisode-là, on en avait parlé cet été. Une petite interférence de l'administration dans le circuit judiciaire. Je trouve ça toujours magnifique quand ça arrive.
En tout cas, comptez sur nous pour vous donner tous les développements de cette affaire.
Ouais.
De manière prononcée, on va pas non plus trop vous saouler. On va écouter un premier morceau de musique, histoire de vous laisser digérer tout ça. Fresh Body Shop, Kids in Thailand. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6.
Time.
C'était Fresh Body Shop, Kids in Thailand. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6. C'est la deuxième partie des actualités.
Alors,
Pierre, oui. Nous attendons ta parole.
Je me suis trompé de bouton, désolé, j'ai pas mis mon micro. Excusez-moi.
Je peux même pas le virer, sinon on perd trois quarts de l'émission.
Bon.
C'est mieux ça... quand c'était team quand même, on peut le virer quand on voulait, y a pas de...
Allez, donc on est bien nos amis les ayants droit et tous ceux qui jouent avec le copyright, ils sont toujours très très drôles, ils sont toujours innovants dans leurs idées à la con. Est-ce que tu connais, Alexandre, les éditions Casterman ?
Tout à fait, une fois.
Tout à fait. Et tu connais leurs amis la société Moulinsart ?
Ah, la société Moulinsart, oui, donc je suppose que ça doit être les héritiers d'Hergé.
Les héritiers des droits d'Hergé, plutôt, ouais. Je pense. Hein, c'est attention. Donc là, ces charmantes personnes, elles ont expliqué dans la presse en Belgique, dans les derniers jours, là.
On a des auditeurs belges, je te prie, à ne pas te moquer de notre audience.
Je ne me moque pas du tout.
C'est
vraiment pas. Ils ont eu une idée, ma foi, un petit peu saugrenue. Ils ont un problème, c'est que Tintin, en 2053, il va tomber dans le domaine public.
En 2053,
attends,
j'aurai 66 ans.
Ouais, c'est... Ils voient loin, les mecs, on peut leur reconnaître ça, ils sont prévoyants. Et donc, ils sont en train de réfléchir à comment sauver Tintin du domaine public. Parce que pour eux, le domaine public... Oh, mais c'est pas possible, mais quel affront, c'est impossible, pas le domaine public, voyons.
Bon, c'est juste que Hergé est mort en 82,
il me semble. Et donc, pour sauver Tintin donc, du domaine public, ils ont décidé... Enfin, ils pourraient, c'est une hypothèse, mais ils semblent plutôt partants pour faire ça... Il pourrait sortir un album de Tintin en 2053.
Ah, c'est juste pour... Enfin, d'ici là, ils ont le temps de mourir quand même, les gens.
Oui, mais...
C'est quand même dans 40 ans, quoi. Donc si les mecs, c'est des mecs de 50 balais qui décident de ça, d'ici là, il y a moyen que... Alors, peut-être pas mort, mais bon...
C'est pas des gens qui tiennent les droits, c'est une société.
Ouais.
C'est une société qui détient les droits, là. Et donc forcément, la société en question, ben, en 2053... Les gens, ça meurt, les dirigeants d'entreprise.
Même en refaisant un album. Oui, mais les albums sont tombés dans le domaine public, ils ne pourront pas l'empêcher, ça.
Non, par contre, tout ce qui est produit dérivé de Tintin.
Oui, pour continuer à se faire de l'argent sur.
Voilà.
Sur Monsieur Georges Rémy.
C'est assez scandaleux, quand même, cette histoire. Moi, ça me choque un peu, surtout que donc Hergé avait déclaré qu'il ne voulait pas que Tintin lui survive.
Voilà, bon. Pour du pognon, on ne respecte rien, des fois. Hein.
Ouais. Là, enfin, je trouve ça un peu raide quand même. On va continuer un petit peu avec nos amis ayants droit. Ils sont chauds hein, pour la suite de la Hadopi. Enfin, plutôt pour l'après-Hadopi. Je sais pas si t'as suivi un petit peu.
Oh, ça devient les feux de l'amour.
Ouais, c'est les feux de l'amour. Donc là, c'est aux rencontres cinématographiques de Dijon. Il y a eu des échanges sur les suites du rapport Lescure, la partie contrefaçon. J'adore, hein, appeler ça contrefaçon, je trouve ça magnifique.
Ça, c'est toujours mieux que vol. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est mieux que vol. Alors, donc, grosso modo, TF1, Canal+, et autres, ils disent les plateformes d'hébergement de vidéos comme YouTube, c'est pas bon. Enfin, c'est des scandales, c'est du pillage.
TF1 a pas un site qui s'appelle watt.fr ou .tv ?
Je sais plus. Je m'amuse pas trop avec eux. Le statut d'hébergeur, pour eux, c'est exorbitant et anachronique. C'est-à-dire, le fait d'être juste hébergeur, de dire « Bah non, c'est pas moi, c'est mes utilisateurs qui ont fait des actions, je suis pas en cause. » Pour eux, ça pose un problème.
Par contre, je pense que ça leur posait des problèmes si, par exemple, je sais pas, un invité sur le plateau du 13h de TF1 se mettrait à tenir des propos racistes ou antisémites. Je sais pas, ils inviteraient une personne du Front National. Ça peut arriver. Et imaginons.
Une personne du Front National qui dérape ou d'inviter une personne du FN. Enfin, sur TF1, c'est vrai que c'est réaliste.
Oui, bah, sur TF1, c'est quand même réaliste. Et qui tient des propos antisémites et qu'on condamne TF1 pour ça.
C'est vrai que ça serait comique.
Ouais, ils comprendront la différence entre.
Et puis oui, donc là, grosso modo, pour eux, l'internet c'est les méchants, vive la télévision. Et ils ont toujours pas compris hein, que. Je suis désolé les mecs, hein, mais le monde évolue. Avant la télé, je suppose qu'il y a un siècle. Enfin, moi aussi, ça. Il y a 60 ans, je suppose qu'au début de la télévision, les gens disaient « Ah non, mais les radios, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup mieux, on passe mieux le message, je sais pas quoi. » Le monde évolue, il y a des nouveaux moyens de communication qui apparaissent, c'est tout. Et ben, pour ces gens-là, c'est pas vraiment d'actualité pour eux. Donc, j'espère que nos amis du gouvernement ne les écouteront pas trop, parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de conneries à dire encore. Beaucoup. Bon, on va continuer, on va parler un petit peu de téléphone.
Maison.
Facile. Bon, une petite vengeance de la part de Google face à Microsoft. Hein, ils se prennent un procès dans la gueule pour des brevets. Ils viennent de faire un petit doigt d'honneur tout mignon à Microsoft. Ils ont intégré la suite bureautique QuickOffice dans la prochaine version d'Android, la version 4.4. Ça, c'est un sérieux doigt d'honneur à Microsoft qui était en train de porter Microsoft Office sur Android. Là, Microsoft Office va se retrouver
en concurrence avec un
logiciel qui va être diffusé gratuitement et installé par défaut sur tous les logiciels.
Mais pas libre.
Pas libre. Attention. Mais donc, c'est bien. Je me demande ce que ça va faire aux gens de Microsoft de se retrouver dans une situation où ils luttent contre un abus
de position dominante.
Oh, un petit peu.
Ils ont déjà Microsoft a déjà accusé Google d'abus de position dominante. Hein.
Tout à fait.
On a bien rigolé à l'époque.
Là on pourra bien rigoler s'ils les accusent à nouveau. Autre nouvelle, on va parler de trucs plus libres quand même. LG lance un téléphone portable sous Firefox OS à $200. Donc bon, ça sera encore une fois pas de bol. Les opérateurs en France ne vont pas le diffuser dans leur réseau.
Et pourtant, 200 euros pour un smartphone, alors faut vouloir fois. Oui, bon, voilà. On va dire à peu près pour 200. On ne mettra pas l'unité monétaire. Bon, faut voir ce qu'il est capable de faire. Mais bon, ça reste un prix relativement raisonnable.
Les caractéristiques.
C'est surtout que les smartphones à 500 ou 600 euros. 600 euros, c'est pour le low cost. Hein. Ça fait un petit peu.
600 euros.
Ouais, c'est le low cost, l'iPhone 5C, tu vois, le low cost d'Apple, c'est 600 euros.
Ah oui,
c'est le low cost.
Low cost, ouais.
En sachant que le plus cher coûte 1100 euros. J'ai dire que même nos portables coûtent moins cher que. Nos ordinateurs portables coûtent moins cher que ça. Quoi.
Ouais. Donc là, on parle d'un téléphone portable avec un processeur à 1 GHz, quelques gigas de stockage.
Bon, un truc, voilà.
Le truc classique.
Ça permet de faire un peu de web, d'aller. Ouais,
de faire du web, faire de la.
Du réseau social et tout machin.
Voilà, de la messagerie instantanée, ce qu'on veut, quoi. Truc de base d'un téléphone. Donc effectivement, c'est pas un téléphone ultra haut de gamme, mais c'est
ça voilà, permet de faire des
bon
trucs.
Petit téléphone. Le tout sous Firefox OS. Laisse-moi un autre téléphone libre, s'il te plaît. Est-ce que tu sais quelle est la particularité du coucou?
Oui, il récupère les œufs des autres. Enfin, il pond ses œufs dans les nids des autres oiseaux. Pardon.
Voilà. Bien là, le projet OpenMoco, le projet de téléphone libre qui avait donné le FreeRunner il y a quelques années, il fait comme un coucou. Et donc ils ont décidé d'installer leur nid dans la coque du téléphone de Nokia, le N900.
D'accord. Donc, qu'est-ce que ça donne?
Alors, qu'est-ce que
qui
ça donne?
Qui était prévu d'ailleurs, qui fonctionne déjà sous Linux de base.
Oui, mais en fait là c'est une mise à jour du matériel parce que le N900, j'en ai un, il marche encore très bien.
Ah, la coque, c'est-à-dire juste la coque, il remplace toute l'électronique.
Voilà, il remplace la carte mère parce que effectivement un processeur d'il y a 6 ans en téléphone portable ça commence à dater un petit peu.
C'est vrai.
Donc là c'est une petite mise à jour matérielle. Alors c'est assez cher, leur objectif est de faire un système ouvert encore de A à Z comme à leur habitude. Ils prévoient de le vendre ça pour 800 euros, un truc comme ça.
Aïe, ça fait, oui.
Ça fait un peu cher, mais...
C'est le prix d'une pomme.
Voilà, c'est le prix d'une pomme, sauf que là, c'est à glisser dans la coque d'un N900. Mais je trouve l'initiative très intéressante. C'est, ça, fait, ça a un côté aussi un petit peu recyclage.
Est-ce qu'il va faire la 3G aussi?
Oui, bien sûr.
Et libre?
3 et 4G normalement. Par contre, peut, je ne sais pas si le firmware du modem sera libre.
Ça... Et déjà, déjà, ils auront des puces quand ils ont reçu...
Déjà, sur leurs itérations précédentes, la GTA 04, ils avaient la 3G. Il ne faut pas être médisant.
Je ne serai plus médisant. On va écouter un nouveau morceau de musique, LM, The Better Way. Vous écoutez les codes Ignus sur Radio Campus 106,6. Like a ninja half a lonely in the sky, that's really good. Like a ninja I can go everywhere now, it's amazing dude. Like a ninja I can fly everywhere now, that's really good. Like a ninja I can die with say your slide, it's a boring dude. That's the better way. Your life, believe me, dude. Try to match for the appeasement of your mind. That's how it's good. We'll never have time to lie. Everything is good. Anything worthwhile is never done. It's incredible, dude. That's the better way. C'était LM, The Better Way. Vous écoutez les Codes Ignus sur Radio Campus en 6,6. C'est la troisième et dernière partie des actualités.
On va commencer par le décès d'une personne. À chaque fois, ça me fait marrer quand... Enfin, ça...
Merci Pierre. Voilà. Merci, là, c'est cadeau.
C'est cadeau.
Pour qui tu nous vends? Tu vas encore nous faire passer hein, pour des...
C'est cadeau.
Des nerds sans cœur...
Non, désincarnés. Ce qui m'amuse à chaque fois, c'est quand je fais la comparaison avec... le décès d'un certain Steve G. Hein,
Steve G, donc...
Le pôle emploi américain.
C'est ça, un Californien connu dans le monde de la mode.
Voilà, c'est ça.
Appliqué
qui est à
son
décès il y a quelques temps maintenant, il y a un an ou deux. Et on avait fait tout un brouhaha dans tous les médias, tous les médias ne parlaient que de ça. En même temps, il y avait le décès d'un des fondateurs d'Unix, Dennis Ritchie, et personne n'en parlait. Là, C'est une autre mort d'une personne qui a pourtant une importance énorme dans le monde de l'informatique, et on n'en a pas parlé une seconde, je pense, dans les grands médias. En tout cas, je ne l'ai pas vu sur les médias publics que je consulte. Je l'ai vu que sur des sociétés spécialisées en informatique. Il s'agit du décès de William Lowe. Alexandre, le connaissais-tu ?
Non, même moi, il faut redire.
Créateur de l'architecture de l'IBM PC. C'est lui qui a décidé de créer l'IBM PC de la façon dont il a été conçu, et c'est lui qui finalement
il a popularisé
par ses décisions techniques, par le fait que l'IBM PC c'était une machine avec des composants que tout le monde pouvait acquérir, avec une fonction que tout le monde pouvait acquérir, et juste une petite puce qui faisait l'abstraction du matériel qui était le BIOS. Par cette conception là, il a créé l'architecture PC, une architecture que tout le monde a pu cloner, diffuser en masse, et c'est ce qui finalement a créé
le standard.
C'est ce qui a créé le monde du PC tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Qui pendant 30 ans était le standard à peu près. Enfin, pendant 10 ans, il était le standard majoritaire. Il y avait quand même les concurrences des Amstrad et le Macintosh était encore assez. Était présent. Pendant 20 ans, le standard, tout court. Hein. Bon, il y a toujours eu.
Il y a quelques exceptions.
Avec toujours Macintosh qui a toujours plus ou moins eu sa part. Bon, même si à la fin des années 90, il y a rien. Et là, c'est selon maintenant qui devient de plus en plus contesté avec l'arrivée des smartphones et des tablettes.
Voilà.
Où là, même si d'un point de vue professionnel, l'IBM PC reste quand même le standard de référence, sauf à part toujours le Mac pour certaines.
Ah non, le Mac n'est pas une exception.
Certaines applications.
Le Mac n'est plus une exception sur l'architecture.
Oui, c'est vrai que l'architecture ressemble maintenant. Oui, c'est vrai que
depuis 2004.
C'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, d'un point de vue, c'est vrai que pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur familial, enfin l'utilisateur personnel, de plus en plus, c'est vrai qu'on voit la montée des tablettes au détriment du PC. Là, le marché du PC, d'ailleurs, se casse les figures, baisse régulièrement.
Voilà.
Bon, ce qui est aussi dû, en même temps, à une certaine saturation du marché. À peu près tout le monde a son PC.
On va parler d'une autre... Là, c'est une petite devinette pour toi, Alexandre, et pour les auditeurs qui nous écoutent. Si je te parle de délivrer des applications... de manière payante. Et puis, la société qui délivre les applications, elle prend 30% sur le montant sur le prix de l'application, et le reste est reversé aux développeurs de l'application. Ouais. C'est quoi ce concept-là pour toi ?
Ça, c'est ce qu'on appelle les marketplaces.
Voilà.
Donc les deux principaux, ceux d'Android et ceux d'iOS.
À ton avis, de quand date le concept ?
Mon avis, alors je vais dire un truc comme début des années 2000, mais tu vas me dire que c'est largement plus vieux.
Eh bien non, parce que là, ce que je t'ai indiqué, le montant de 30%, etc., c'était ce qui était appliqué sur le Minitel en 1983 ou 84.
Oui,
Je suis tombé sur le site OS News, un mec qui disait que le Minitel le surprendra toujours, et effectivement, c'est... probablement le premier App Store.
Oui, après, il y a une certaine différence, c'est que l'App Store, c'est pas pareil, tu vendais aussi la mise à disposition du service. Parce que un Minitel, c'était un terminal passif, tu n'installais rien dessus. Il y a quand même une certaine...
Mais quand tu prends ton smartphone et que tu vends ton application, c'est juste un frontal sur une page web à la con...
Les mauvaises applications, comme l'application Vélil. Pardon, j'ai rien dit.
Ça se dit pas.
D'ailleurs, qui fonctionne très, 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 très mal. Enfin, c'est juste. Voilà.
On va continuer sur du logiciel propriétaire, ça m'a fait marrer. C'est une petite piqûre de rappel sur pourquoi il faut pas baser son business sur un logiciel propriétaire, en tout cas, surtout pas sur un logiciel propriétaire tenu par une tierce société. Il y a plein de fabricants de casques, de micros, etc., qui ont diffusé du matériel en disant « Nous, on est vachement cool quand on est utilisé avec Skype, on supporte l'API de Skype, c'est trop génial. » Il y a eu plein de matériel comme ça, apparemment.
Sauf qu'une API, ça peut se changer unilatéralement.
Non, c'est Microsoft pas ça. A fait une meilleure décision. Ils vont pas la changer, ils vont la fermer en décembre 2013.
C'est-à-dire que ce sera pareil, c'est juste que vous pourrez pas accéder au serveur pour...
Je sais pas comment marcher ces casques exactement, mais ils pourront plus communiquer, mais là c'est même pas communiquer avec les serveurs. La communication avec les serveurs a toujours été interdite. Là, les applications tierces ne pourront plus communiquer avec l'application Skype sur ta machine, directement.
D'accord.
Voilà, encore un bel exemple de pourquoi il ne faut pas faut pas dépendre d'une application propriétaire pour vendre ses biens et ses services. C'est une très mauvaise idée. On va parler un petit peu plus de libre là maintenant.
Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire.
Je pense qu'on est là pour ça, mais on est venu pour ça.
Une très brève. Nvidia continue de publier de la documentation sur ses cartes graphiques. On en avait parlé il y a 2 semaines. Ils ont enfin commencé à le faire. Et donc là, ils ont continué à en diffuser. Très sympathique de leur part. Là, ils ont diffusé des informations sur des bugs spécifiques de certaines cartes. Mais très, toujours très intéressant pour le projet nouveau d'avoir ces données-là. Autre nouvelle concernant un logiciel libre très connu, LibreOffice. On avait parlé il y a... ça remonte peut-être presque à un an maintenant, on avait parlé d'un projet d'AMD d'aider le projet LibreOffice en leur fournissant le nécessaire pour accélérer le tableur, accélérer cette fonction du tableur en utilisant la carte graphique. Et bien là, ça commence à apparaître apparemment pour une grosse série de fonctions. Par contre, je suis pas comptable, ce genre de fonction là je les utilise pas dans un tableur, mais apparemment leur objectif donc reste d'accélérer des tableurs à quelques millions de formules.
D'accord.
Toujours intéressant. On a le temps pour encore 3 petites nouvelles.
Oh, on a encore le temps pour des nouvelles, Pierre.
Cisco, société qui est pas spécialement connue pour son amour du logiciel libre.
Pas vraiment.
Ils ont jamais rien fait spécialement en son intérêt.
Bon, pas spécialement hostile non plus.
Voilà,
mais
ils sont pas hostiles, mais pas copains non plus. Ils sont neutres. Et ben là, ils ont fait quelque chose qui est plutôt cool. On a déjà parlé plusieurs fois du codec, enfin du format de vidéo H264, qui est un format de vidéo qui est très utilisé dans le milieu de la HD, c'est celui qui est utilisé sur les Blu-ray notamment, et qui, pour toute utilisation, est couvert de brevets. Et donc, tout simplement, si Mozilla voulait intégrer le support du H264 dans son navigateur web, il ne pourrait pas, parce qu'il faudrait payer des royalties. Et bien là, Cisco a diffusé une implémentation libre du H264. Ils diffusent aussi le binaire correspondant. Et ils disent, pour tous ceux qui utilisent notre module, on vous protège contre les brevets du MPEG-LA en les payant nous-mêmes.
D'accord, ouais, c'est une espèce de mécénat, quoi.
Voilà. Et donc forcément, bah, ils travaillent main dans la main avec Mozilla pour que Mozilla puisse s'intégrer et supporter certains sites de vidéos... qui fournissent leurs vidéos sans flash, mais à ce format propriétaire-là. Autre petite nouvelle, je sais pas comment le prendre.
Prends-le directement. Comme ça vient.
Non, c'est concernant la NSA et Prism. Je sais pas comment dire. J'ai pas de formulation où ça paraît pas vraiment nul. L'Europe souhaiterait qu'un code de bonne conduite soit mis en place pour éviter des dérives comme Prism.
Un code de bonne conduite auquel
devrait se comporter des agences secrètes.
C'est ça. Soumettrait à des CRI tenu à un code de bonne conduite. Bon, c'est vrai que des CRI encore. Imaginez,
la CIA
se plie à un code de bonne conduite. Le Mossad se plie à un code de bonne conduite.
C'est vrai que c'est bien connu que la NSA a toujours respecté un code de bonne conduite, a respecté de bonnes pratiques. Bien sûr, c'est bien connu.
Vous imaginez un agent secret là. Oh là là, attention, on fait ça. Ce n'est pas une bonne conduite. Nous n'allons pas le faire.
C'est vraiment pas bien. Passage, hein, on parle de ce genre de choses-là, mais dans le projet de loi de programmation militaire, le Sénat a mis un petit amendement qui accorde à la police et à la gendarmerie en temps réel des informations sur les connexions des utilisateurs. C'est tant qu'à faire, hein, on va continuer dans l'espionnage. C'est mignon. En contrepartie, la CNIL donc souhaiterait avoir plus de pouvoir afin de pouvoir lutter le jour où un Prism français apparaîtrait. Ça m'étonnerait qu'il les ait. Là actuellement, la CNIL est est en train de se battre contre Facebook, non contre PayPal. On en avait parlé il y a quelques temps. PayPal qui s'est dit tiens, on va diffuser les informations des gens qui achètent des produits, on va les diffuser à Facebook notamment. La CNIL s'y oppose, sauf que PayPal dit non, c'est bon, on respecte le droit européen. La CNIL n'est pas trop d'accord. Affaire à suivre.
Voilà, on peut donc passer à la rubrique que vous attendez toutes et tous, la dégeekalisation. Pierre va vous dégeekaliser le hacking.
Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un hacker ? Qu'est-ce que c'est que du hacking ? D'abord, pourquoi faire cette nouvelle maintenant ? Il n'y avait rien de spécialement à ce sujet-là sur les news. En fait, alors Alexandre, petite question de culture générale, es-tu prêt ?
Je suis prêt. Top.
Qu'est-ce que le quatrième amendement de la quatrième article de la Constitution américaine?
Article ou amendement?
Article, je crois.
Ça parle de la liberté d'expression.
C'est l'égalité de tous les citoyens.
D'accord. Devant la loi.
Devant la loi. Eh bien, apparemment, c'est pas trop le cas quand t'es un hacker. C'est passé dans les brèves récemment. Un expert en sécurité, en informatique, s'est vu considéré. Alors, j'ai plus les détails, mais il s'est vu considéré un petit peu comme coupable. Juste parce qu'il se prétend être hacker. Et donc, la cour de l'état de l'Idaho a décidé que son ordinateur pouvait être saisi sans même le notifier, sans même avoir une audience en cours préalablement, parce que le mec a expliqué sur son site web qu'il aime bien, alors je vais citer en anglais, « We like hacking things and don't want to stop. »
Nous aimons hacker n'importe quoi et nous n'avons pas l'intention d'arrêter.
Qu'est-ce qu'un hacker? Qu'est-ce que c'est que ce hacking? Parce que là...
C'est un méchant pirate.
Voilà, non, c'est pas un méchant pirate. Ça ne devient un méchant pirate que si on s'amuse à interdire quelque chose qui paraît finalement assez basique. Je vais essayer de trouver un exemple assez simple. J'achète un mixeur. J'achète un mixeur. Puis je me rends compte que il tourne pas assez vite, il est un peu ralenti. Je décide de l'ouvrir, et puis je vois, tiens, ben oui, ici, en modifiant légèrement le moteur, en le changeant, j'arrive à avoir de meilleures performances. Voilà, j'ai fait ça, j'ai refermé le mixeur, et je l'utilise, et ça marche, et ça me convient. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal en faisant ça?
Non.
Non. J'ai fait pourtant ce qu'on appelle du hacking. J'ai fait de la bidouille.
Alors, je sais que Richard Stallman, quand il était venu, avait donné sa définition du hacking. Alors, c'était... Ça va revenir. Il parlait, c'était utiliser l'esprit ludique pour modifier, pour utiliser son cerveau avec l'esprit ludique. C'est un truc comme ça. On retrouvera, voilà. C'était quand il était venu il y a 3 ans maintenant. Ouais, 2 ans. Il était 3 ans.
2 ou 3 ans.
3 ans, 3 ans. Ça date.
Ça date. Alors, un autre exemple, là, il y a quelques jours, je me suis acheté un kit Lego qui a la particularité d'avoir une brique qui tourne sous Linux. Et quel a été mon premier réflexe? Ça a été d'aller en ligne, d'aller sur le site de Lego, chercher une mise à jour d'une firmware, de la télécharger et de commencer à regarder comment c'est construit pour comprendre ce qui tourne dessus réellement et pour pouvoir après le bidouiller moi-même plus librement que dans le cadre imposé par Lego. Est-ce que j'ai violé une loi en faisant ça? Non, je ne pense pas. Je suis en France, le reverse engineering est autorisé. Maintenant, effectivement, faire ça aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus dangereux. Et ça, c'est du hacking, parce que c'est chercher à voir comment fonctionnent les choses pour les bidouiller. Le hacker n'est rien d'autre qu'un bidouilleur. C'est rien d'autre que quelqu'un qui cherche à avancer, à faire progresser les choses, pas nécessairement pas nécessairement pour lui-même. Il cherche juste à comprendre comment les choses marchent, il cherche à les réparer, à les bidouiller, à changer leur fonctionnement. Un autre exemple de hacking très, très symbolique, j'avais parlé l'été dernier de la DEFCON, une conférence qui se passe tous les ans à Las Vegas. La DEFCON a un petit côté très sympathique. Des gens vont là-bas des fois avec des valises qui contiennent des oscilloscopes, des fers à souder, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à gagner quand tu as ce genre de matériel-là et que tu participes à des expériences de bidouille. Et... pour pousser les gens à la bidouille, ils fournissent... Les badges de la DEFCON sont toujours extrêmement particuliers. L'année où j'y suis allé, c'était un circuit électronique avec un sas en forme de statuette égyptienne. Et donc il y avait tout un circuit électronique avec un ensemble de diodes et un système de communication infrarouge entre badges. J'y arriverai. Et donc ce système-là est bidouillable et... On avait pu voir à la DEFCON en 2012 des gens qui étaient allés à la DEFCON en 2011 et qui avaient adapté leur badge pour en faire un chapeau avec des systèmes de décoration, avec des diodes qui clignotaient dans tous les sens, des trucs comme ça. Ça sert à rien. Mais le geste est beau, prendre un matériel qui est conçu pour une certaine utilisation et en détourner, en faire une utilisation complètement différente. C'est ça un hacker. Un hacker, c'est pas le gros vilain qui va dire « Ouais, j'ai partagé le dernier album de Beyoncé, je sais pas, c'est vieux. »
Non, mais bon, ça présume d'un goût... voilà. Je qualifierais de particulier, sans voilà, mettre de jugement de valeur.
C'est le dernier album d'une starlette à la con, et je l'ai mis sur Pirate Bay. Oh, je suis un gros méchant pirate, je suis un hacker. Mais
alors pourquoi cette confusion entre pourquoi hacker a pris le synonyme de est devenu synonyme de pirate?
En fait, c'est parce que il y en a différentes sortes. Il y a les hackers qui pensent jamais à mal, qui cherchent juste à s'amuser, qui cherchent à s'éclater, à découvrir, à apprendre, à faire fonctionner leur cerveau tout simplement. Et après, des fois, tu peux tomber sur des hackers un peu plus intéressés, on va dire, des hackers qui vont chercher des failles de sécurité pour introduire dans des systèmes. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des black hats, c'est les méchants finalement. C'est les méchants parmi la population de hackers. Déjà, donc pour ça, ça pose problème. Et après, il y a tout simplement... Il y a un énorme conflit finalement d'intérêts entre les industriels et les hackers. Imaginons, je te vends une voiture. Je suis nul en bagnole. Mettons, la voiture elle est limitée à 20 chevaux.
Fiscaux ou... Parce que chevaux moteurs, c'est une mobilette, hein, et encore.
Merde, j'en sais rien. Fiscaux, ça marche ou...
Ouais, c'est beaucoup. On va dire 60 chevaux. C'est pas beaucoup.
Voilà, je te vends une voiture 60 chevaux. Et ton voisin, il a la même, sauf que lui, il l'a payé plus cher, il l'a à 70 chevaux. Puis tu ouvres le capot et puis tu vois, mais c'est le même moteur. C'est juste, c'est un coup de bol, c'est la même série, t'as juste un plus 1 sur le numéro de série. Tu
fais, ouais, enfin, c'est limite vrai ton exemple. Hein. L'électronique, ça peut être bridé électroniquement, je pense. Hein.
Justement, on y vient. Vous cherchez, vous voyez, ah merde, le moteur est strictement le même, comment c'est possible? Et en fait, vous vous rendez compte, en continuant vos bidouilles, que le firmware n'est pas le même sur les deux voitures. Et puis là, vous ouvrez le firmware, vous bidouillez un peu dedans, et puis hop, vous arrivez à monter à 75 chevaux. Est-ce que vous avez fait quelque chose d'illégal? Bon, vis-à-vis de la loi, parce que il me semble que sur la carte grise, c'est la puissance de la voiture qui est indiquée, si vous avez fait ça, c'est pas très clean, pas très net, ça passe pas trop. Mais vis-à-vis du fabricant, par contre, vous avez fait quelque chose d'horrible, surtout si, en bon hacker que vous êtes, vous le documentez. En bon hacker que vous êtes, vous le documentez, vous diffusez ça sur internet, c'est terrible pour le fabricant parce que d'un coup, les gens les moins scrupuleux vont plus acheter les modèles plus chers, ils vont acheter le modèle moins cher et juste appliquer une petite mise à jour pour passer ce modèle beaucoup plus puissant. Donc il y a ce conflit d'intérêts là entre les hackers et les industriels. On a aussi la même chose entre hackers et ayants droit. Quand des hackers cherchent mettons, c'est ce qui s'est passé avec la PlayStation 3. La PlayStation 3, au début, on pouvait installer Linux dessus. C'était une plateforme d'expérimentation, une bidouille magnifique, parce que il y avait un processeur, le Cell, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on trouve sur un PC. C'était une merveilleuse plateforme pour ça. Sauf que, à côté de ça, la PlayStation 3 doit fournir des services de plateforme de lecture de Blu-ray, plateforme de jeux vidéo, etc., avec des protections anti-copie très strictes. Et donc, le mélange des deux mondes se passait de plus en plus mal. Mais... les hackers, progressivement, commençaient à comprendre comment rentrer dans le système. Certains étaient allés jusqu'à dire « Attends, il faut forcer à la masse telle broche du processeur pour désactiver telle sécurité. » Ça devenait très poussé, très dangereux, surtout pour les ayants droit. Et donc ils ont tout simplement décidé à cette époque-là de fermer cette fonctionnalité, la fonctionnalité de faire tourner un système Linux sur la PlayStation 3. Un hacker donc, c'est un bidouilleur, ça n'a rien de méchant en soi. Le fait là donc aux États-Unis, il y a un hacker qui peut se faire saisir sans aucun préavis son ordinateur juste parce qu'il a dit qu'il était un hacker, c'est scandaleux.
Oui, après, sachant que la Cour suprême, enfin, les tribunaux ont beaucoup plus d'altitude pour déclarer une décision inconstitutionnelle par rapport à la France, où c'est uniquement le Conseil constitutionnel en passant par la Cour de cassation, et encore la procédure est très récente, hein, la fameuse QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Là-bas, un tribunal peut... c'est une norme, la Constitution est une norme comme les autres. Donc n'importe quel tribunal peut déclarer une loi anticonstitutionnelle ou une mesure anticonstitutionnelle. Enfin, on verra ce qu'il en deviendra, en tout cas.
Et donc, petit rappel, les hackers aiment bien se retrouver tous ensemble. Donc, réservez déjà votre... deuxième ou premier week-end de février, je ne sais plus, pour le FOSDEM, qui est une bonne grosse conférence de hackers où on se retrouve tous dans la joie et la bonne humeur à Bruxelles.
Ou les RMLL, ou tout simplement les derniers mardis de Ch'tinux.
Ouais, il y a un peu moins de barbu quand même.
Il y a un peu moins de barbu, c'est moins barbu. Merci Pierre pour cette déquiquilisation qui a le mérite de remettre les choses en place. L'agenda de la semaine, alors il y a comme d'habitude la permanence du dernier mardi, donc ce sera le mardi, que je n'y dise pas de bêtises.
Deux secondes.
Ce sera le mardi 29 novembre, donc 20h30 au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux, à Lille Métro République Beaux-Arts.
Non, c'est 26 novembre.
Pardon, j'étais sur le mardi 26 novembre, donc 20h30 au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux, à Lille. Donc c'est la permanence du dernier mardi. C'était donc le 78e numéro de l'Écho des Gnous face A. Pierre était là, comme d'habitude.
Bonsoir.
Je suis ici, comme d'habitude. Également, dans une semaine, ce sera l'Écho des Gnous 78 phase B avec Sébastien Zetoma. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour l'Écho des Gnous 79 phase A. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. On se quitte en musique avec Felix, Song for Your Mama. Vous écoutez toujours l'Écho des Gnous pour les trois dernières minutes. Au revoir à tous. Bonne fin de week-end.
Bonne soirée. Bye bye.
Une petite poignée d'hommes ont fait de notre terre un véritable calvaire, un véritable calvaire, un soi-disant progrès qui nous a abandonnés à notre propre misère, à notre propre misère. On dit qu'on ne peut rien faire, mais dans chaque pays, chaque décennie, un voile se lève sur le sens de la vie, sur le sens de la vie, sur le sens de la vie, sur le sens de la vie. Quand allez-vous comprendre que la vie matérialiste engendre des guerres, ajoutant des morts sur les listes? Quand allez-vous entendre que l'homme est humaniste? Il ne faut pas se méprendre et prendre la mauvaise piste. Soyez dans la lumière, car la véritable vie est celle que l'on construit petit à petit, loin des chemins détruits. Abandonner la haine, jetez-la dans un puits, pour que jamais ne reviennent tous ces mauvais esprits. Allez! Quand allez-vous comprendre que le progrès est infini, qu'il faut évoluer au rythme des décennies? Quand allez-vous entendre nos enfants aujourd'hui se tournent vers l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter, bloqués dans nos souvenirs? La technologie a bien avancé, mais il serait temps de laisser reposer pour voir la réalité sur ce qu'elle a engendré. Il faut changer nos pensées afin de les positiver.